Mais que fait l'Europe ? L'actualité des 28 dans l'espace Europe.
Car c'est aujourd'hui que démarre la réunion des commissaires en collège. Peut-être l'ignorez-vous, mais en tout cas, assez régulièrement, au moins une fois par semaine, conformément au règlement intérieur de la Commission européenne, il y a une réunion des commissaires de l'Union européenne. Certains vont parcourir un ordre du jour assez fastidieux. Je l'ai retrouvé aujourd'hui, c'était franchement pas facile à lire. Il a fallu vraiment fouiller. Et dont le point B.8, je déconne pas, hein, j'ai l'affiche dans les mains. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique, social européen, au Comité des régions. On prend son souffle et on arrive sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire. Et ben en voilà un thème qui est bien et qui nous a été soufflé par le patron du bureau bruxellois de Confrontation Europe, Édouard Simon. Bonsoir.
Bonsoir Léo.
Avec un démarrage sur les chapeaux de roue, merci beaucoup d'être bien à l'heure.
Mais je vous en prie, c'est avec plaisir que je suis avec vous ce soir.
On va parler de la stratégie plastique et c'est pas un petit sujet car on a tous entendu parler à un moment dans l'actualité de ce fameux 7e continent, c'est-à-dire ces continents de plastique qui évoluent au gré des mers avec des gros morceaux de plastique, des petits morceaux de plastique qui sont le fruit d'une énorme production. Dans les années 1950, on évaluait à 1,5 million de tonnes la production de plastique chaque année. 60 ans plus tard, on en est à 245 millions de tonnes. Alors je ne sais pas si c'est la production mondiale de plastique, pas celle qui est rejetée dans les océans, autant vous dire que le plastique, on ne sait plus trop quoi en faire. Vous avez d'autres chiffres à nous proposer, Edouard, ou pas ?
Oui, alors effectivement, la production de matières plastiques au niveau mondial a été multipliée par 20 depuis les années 60. On sait surtout que d'ici 2030, si rien n'est fait, elle sera à nouveau multipliée par 2. Donc le problème que vous évoquez, qui est une partie du problème, va être amené à être amplifié. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que chaque année, il y a effectivement entre 5 et 13 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont rejetés dans l'environnement et en particulier dans les océans. À tel point que si rien ne change, en 2050, il y aura plus de déchets plastiques dans les océans que de poissons.
C'est ce qui est énorme, évidemment. Il y a énormément d'inquiétudes qui sont posées, notamment quand on sait sur le rôle phare des océans dans la captation de CO2 et sur le fonctionnement du plancton. Ce plancton pourrait potentiellement donc capter, aider tout l'écosystème de l'océan à capter CO2 et aussi est à la base de la chaîne alimentaire des poissons. Donc sans les océans, on ne mange pas, et si on ne mange pas, on meurt. Donc il y a une vraie inquiétude.
Tout à fait, d'autant plus qu'aujourd'hui, on sait déjà qu'on retrouve du plastique dans à peu près tous les êtres vivants qui sont sur Terre.
Donc, bon appétit.
Une des raisons de ce gâchis, de ce risque environnemental massif, c'est que le taux de recyclage de ces déchets plastiques est particulièrement bas. Et c'est le cas en Europe où seulement 30%, globalement, en fait, les déchets plastiques, il y en a un tiers qui va être recyclé, un tiers qui va être mis en décharge, donc on va juste mettre à l'écart, stocker quelque part, et un tiers qu'on va brûler pour le valoriser énergétiquement. Donc on est, au tout début de ce qu'on pourrait faire pour mieux valoriser en fait ces déchets plastiques, puisqu'on sait, et il y a une mine de choses à faire, puisqu'on sait aujourd'hui que après une première utilisation, les emballages plastiques, il y a 90% de sa valeur qui est juste jetée à la benne.
Ce qui est vraiment dommage, car aujourd'hui on parle de la valorisation, la revalorisation des déchets. Qui sont les bons élèves en Europe en matière de recyclage ? On a une petite idée. Et qui sont, à contrario, les mauvais élèves ?
Tout à fait. Alors dans les bons élèves, vous allez trouver de manière assez attendue les pays du Nord et l'Allemagne avec des taux de valorisation, c'est-à-dire des taux de recyclage et des taux de valorisation énergétique des déchets plastiques qui sont au-delà de 90%. Dans les mauvais élèves, on va trouver toute une partie de l'Europe du Sud avec des résultats qui sont assez variés selon les pays. Et quand on regarde un pays comme la France, clairement, le taux de recyclage qui est inférieur à 30%, donc inférieur à la moyenne européenne, est très largement insuffisant et pourrait être très largement amélioré.
Ce qui est très intéressant de constater pour un pays développé, de voir que le recyclage ne soit pas forcément au goût du jour. Alors je sais que pour avoir un petit peu travaillé le sujet avant de vous recevoir, Edouard, qu'il y a une prise en compte d'une stratégie plastique, et ce depuis maintenant les années 2010 dans l'Union européenne, peut-être même avant. Quels sont les points phares d'ailleurs sur la stratégie plastique ?
Alors tout à fait, la question des plastiques est particulièrement importante par les chiffres qu'on a évoqués, par les risques potentiels que ces plastiques peuvent avoir sur la santé, notamment humaine, mais aussi parce que le plastique, on en voit tous les jours. Rien que dans ce studio, du plastique, vous en avez à peu près partout. Sur la table, sur vos ordinateurs, vos lunettes, nos
les
casques,
stylos,
les micros.
Les GSM.
Exactement. Et un des axes forts aujourd'hui, une des aires sur lesquelles aujourd'hui la Commission et l'Union européenne veut se concentrer, c'est la question des emballages plastiques qui, ces dernières années, se sont multipliés et qui représentent 60% de ces déchets plastiques au niveau du consommateur final. Donc aujourd'hui, on a eu un acte important de l'Union européenne. Depuis 2015, on a une nouvelle dynamique en faveur de ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore le recyclage, la réutilisation des déchets. Et ça ne concerne pas seulement la collecte, le tri des déchets, mais ça concerne toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, depuis le moment où il est conçu jusqu'au moment où il est recyclé. Et enfin, depuis 2015, la Commission européenne propose une approche qui est, disons, globale, qui est exhaustive et propose des pistes d'une véritable stratégie industrielle pour favoriser, disons, une plus grande circularité de l'économie, pour nous permettre aussi d'améliorer la productivité de nos ressources et donc d'améliorer aussi notre impact sur l'environnement quand nous produisons des biens et des services.
Donc ça veut dire, ça a l'air d'être un gros jet, ça c'est clair, et déterminer en fait si on peut remplacer le plastique dans nos produits de consommation courante, et on parle beaucoup de l'essor aussi des produits qui sont beaucoup plus respectueux en termes de biodégradabilité, si je peux m'exprimer ainsi, mm-hmm. Donc plus des dérivés bois, des dérivés de cellulose, etc. Et en même temps, pouvoir réinsérer le plastique par le recyclage, pour ensuite le réemployer au fur et à mesure.
Le recyclage ou la réutilisation. Et je pense que c'est un point important à ne pas oublier, c'est qu'il y a plusieurs façons de valoriser un déchet. On peut le recycler, on peut le réutiliser, c'est-à-dire le réutiliser tel quel. Un emballage tel qu'une bouteille en plastique dans lequel on met de la lessive peut être réutilisé tel quel pour remettre de la lessive, voire aussi, in fine, quand on ne peut plus rien en faire d'autre, valoriser énergétiquement. Aujourd'hui, le plan qu'a présenté la Commission européenne est important. Il est spécifiquement centré sur les déchets plastiques. Et il a, disons, quatre dimensions importantes, dont la plus importante est celle de créer un véritable marché intérieur pour les déchets plastiques, mais aussi pour les plastiques qui sont recyclés. Parce que un des problèmes qu'on va rencontrer, c'est aujourd'hui, il n'existe pas de demande suffisante pour des plastiques recyclés. C'est-à-dire que des producteurs ou des utilisateurs de matériaux plastiques, typiquement je pense à des entreprises qui produisent des sodas par exemple, qui vont mettre leur soda dans une bouteille en plastique, vont avoir plutôt tendance à utiliser des matières en plastique non recyclées, parce que une partie du problème est qu'il y a des interrogations quant à la qualité des plastiques recyclés. Donc, une des pistes d'action de la Commission européenne est de mettre en place un système de standardisation sur ces matières plastiques recyclées pour pouvoir améliorer et créer une véritable demande pour ces produits recyclés. De la même façon, la Commission européenne va s'évertuer à essayer de faire diminuer le nombre de déchets plastiques, et c'est-à-dire qu'au-delà d'une campagne de prévention qui est somme toute classique, elle va interdire sur le marché intérieur un certain nombre de plastiques qui sont particulièrement dangereux, et on pense par exemple aux plastiques oxo-biodégradables qui étaient présentés comme des plastiques biodégradables, qui en fait sont des plastiques qui se décomposent en microplastiques et qui ne font qu'en fait diluer la pollution au niveau des sols. De la même question, cette question des microplastiques, elle a une place à part dans la stratégie de la Commission, qui entend les interdire dans des produits de la consommation de tous les jours dont on n'a absolument pas idée. Savez-vous qu'aujourd'hui, on retrouve des microplastiques dans les cosmétiques, donc dans les crèmes consommées sur le visage, mais aussi dans les détergents, dans les produits détergents, les produits ménagers que vous utilisez et, par exemple, que bébé peut être amené à toucher, lécher, etc. Un point très important, me semble-t-il, central de la stratégie de la Commission européenne, c'est de faire en sorte qu'on ne retrouve en 2030, c'est-à-dire dans moins de 15 ans, que des emballages plastiques qui soient soit réutilisables, soit recyclables sur le marché européen.
Donc il y a quand même des objectifs qui soient suffisamment concrets.
Tout à fait.
Manque plus que le budget pour pouvoir les faire, les transformer. Puis moi, j'aime bien l'idée directrice de se dire qu'on peut résolument créer un vivier d'emplois avec du recyclage. Il y a un chiffre, hein, d'ailleurs. En faisant passer le niveau de recyclage à 70% d'ici à 2020, on estime à 162 000 le nombre d'emplois que l'on peut créer en Europe, rien que sur une filière recyclage. Donc, il y a un enjeu industriel et un enjeu écologique.
Tout à fait. Je pense que c'est ça qui est très important dans la stratégie de circularité de la Commission européenne. C'est cette question de... On ne va pas opposer économie et environnement. On va bien essayer de créer des marchés sur lesquels les deux sont joints. Parce que la question de la durabilité, c'est une question qui est bien sûr écologique, mais c'est aussi une question qui est économique. Si vous ne créez pas des business models qui sont rentables économiquement, ces business models, ces entreprises disparaîtront. Donc aujourd'hui, on doit travailler... Et c'est une partie de la réflexion qui est engagée aujourd'hui au niveau européen et qui peut-être aujourd'hui on peut être, on pourrait aller plus loin pour le dire de manière positive, c'est comment est-ce qu'on réfléchit sur cette rentabilité de ces nouveaux business models.
Et comment on fait un business, un déchet. Et ça aussi, c'est la grande question des 10 prochaines années en fait, qui viennent, même s'il y a des grandes disparités dans la prise de conscience du recyclage dans l'Union européenne. Merci en tout cas, Edouard Simon, de nous avoir attiré l'attention sur ce sujet intéressant et qui est en train d'être débattu aujourd'hui à Strasbourg, si je ne m'abuse, hein, puisque le Conseil et le Parlement, c'est à Strasbourg actuellement. Un grand merci, une belle soirée.